Victor Hugo, La légende des siècles, Eviradnus. Départ de l'aventurier pour l'aventure. Qu'est-ce que Sigismond et Ladislas ont dit? Je ne sais si la roche ou l'arbre l'entendit, mais quand ils ont tout bas parlé dans la broussaille, l'arbre a fait un long bruit de taillis qui tressaille, comme si quelque bête en passant l'eût troublé. Et l'ombre du rocher ténébreux a semblé plus noire, et l'on dirait qu'un morceau de cette ombre a pris forme et s'en est allé dans le bois sombre. Et maintenant on voit comme un spectre marchant là-bas dans la clarté sinistre du couchant. Ce n'est pas une bête en son gîte éveillé, ce n'est pas un fantôme éclos sous la feuillée, ce n'est pas un morceau de l'ombre du rocher qu'on voit là-bas au fond des clairières marcher. C'est un vivant qui n'est ni strige ni lémure. Celui qui marche là, couvert d'une âpre armure, c'est le grand chevalier d'Alsace, Eviradnus. Ces hommes qui parlaient, il les a reconnus. Comme ils se reposaient dans le hallier, ses bouches ont passé, murmurant des paroles farouches. Et jusqu'à son oreille, un mot est arrivé. Et c'est pourquoi ce juste et ce preux s'est levé. Il connaît ce pays qu'il parcourut naguère. Il rejoint l'écuyer Gasclin, page de guerre, qui l'attend dans l'auberge au plus profond du val, où tout à l'heure il vient de laisser son cheval. Pour qu'en hâte on lui donne à boire et qu'on le ferre. Il dit au forgeron, « Faites vite, une affaire m'appelle. » Il monte en selle et part. Eviradnus. Eviradnus, vieux, commence à sentir le poids des enchenus, mais c'est toujours celui qu'entre tous le renomme, le preux que nul n'a vu de son sang économe. Chasseur du crime, il est nuit et jour à l'affût. De sa vie, il n'a fait d'action qui ne fût sainte, blanche et loyale, et la grande pucelle, l'épée, en sa main pure et sans tache, étincelle. C'est le Samson chrétien qui, survenant à point, n'ayant pour enfoncer la porte que son poing, entra pour la sauver d'un Siegingen en flamme, qui, s'indignant de voir honorer un infâme, fit sous un dur talon un tas d'arceaux rompus du monument bâti pour l'affreux Lupus, arracha la statue et porta la colonne du Münster de Strasbourg au pont de Vasselonne. Et là, fier, la jeta dans les étangs profonds, au vent en Viradnus d'Alford à chaud de fond. Quand il songe et s'accoude, on dirait Charlemagne, rôdant ou hérissé du bois à la montagne. Vêtu, fauve, il a l'air d'un loup qui serait bon. Il a 7 pieds de haut comme Jean de Bourbon. Tout entier au devoir, quand sa pensée il couve, il ne se plaint de rien, mais seulement il trouve que les hommes sont bas et que les lits sont courts. Il écoute parfois si l'on crie au secours. Quand les rois courbent trop le peuple, il le redresse avec une intrépide et superbe tendresse. Il défendit Alix comme Diaguraca. Il est le fort ami du faible. Il attaqua dans leurs antres les rois du Rhin et dans leurs bauges les barons effrayants et difformes des Vosges. De tout peuple orphelin, il se faisait l'aïeul. Il mit en liberté les villes. Il vint seul de Hugo, tête d'aigle, affronter la caverne. Bon, terrible, il brisa le carcan de Saverne, la ceinture de fer de Schlestadt, l'anneau de Colmar et la chaîne du pied de Haguenau. Tel fut Eviradnus. Dans l'horrible balance où les princes jetaient le dol, la violence, l'iniquité, l'horreur, le mal, le sang, le feu, Sa grande épée était le contrepoids de Dieu. Il est toujours en marche, attendu qu'on moleste bien des infortunés sous la voûte céleste, et qu'on voit dans la nuit bien des mains supplier. Sa lance n'aime pas moisir au râtelier. Sa hache de bataille aisément se décroche. Malheur à l'action mauvaise qui s'approche, trop près des Viradnus, le champion d'acier. La mort tombe de lui comme l'eau du glacier, il est héros. Il a pour cousine la race des Amadis de France et des Pyrrhus de Thrace. Il rit des ans. Cet homme à qui le monde entier n'eût pas fait dire grâce et demander quartier, ira-t-il pas crier autant « Miséricorde » Il sait, comme Baudouin, ceint les reins d'une corde, et tout vieux qu'il est, il est de la grande tribu, le moins fier des oiseaux n'est pas l'aigle barbu. Qu'importe l'âge, il lutte, il vient de Palestine, il n'est point là, les ans s'achardent, il s'obstine. 3. Dans la forêt. Quelqu'un qui s'y serait perdu ce soir verrait quelque chose d'étrange au fond de la forêt. C'est une grande salle éclairée et déserte, où, dans l'ancien manoir de Corbus, l'herbe verte, le lierre, le chien dans l'églantier sauvageon font depuis 300 ans l'assaut de ce donjon. Le bourg, sous cette abjecte et rampante escalade, meurt, comme sous la lèpre un sanglier malade. Il tombe, les fossés s'emplissent des créneaux. La ronce, ce serpent, tord sur lui ses anneaux. Le moineau franc, sans même entendre ses murmures, sur ses vieux pierriers morts vient pequeter les murs. L'épine sur son deuil prospère insolemment. Mais l'hiver, il se venge. Alors le bourg dormant s'éveille, et quand il pleut, pendant des nuits entières, quand l'eau glisse des toits et s'engouffre aux gouttières, il rend grâce à l'ondée, au vent, et, content d'eux, profite pour cracher sur le lierre hideux des bouches de granit de ses quatre gargouilles. Le bourg est au lichen comme le glaive aux rouilles. Hélas, et Corbus triste agonise. Pourtant, l'hiver lui plaît. L'hiver, sauvage combattant, il se refait avec les convulsions sombres des nuages hagards croulant sur ses décombres, avec l'éclair qui frappe et fuit comme un larron, avec les souffles noirs qui sonnent du clairon. Une sorte de vie effrayante à sa taille. La tempête est la sœur fauve de la bataille. Et le puissant donjon, féroce et chevelé, dit « Me voilà !» sitôt que la brise a sifflé. Il rit quand l'équinoxe irritait la querelle. Sinistrement, avec son haleine de grêle, il est joyeux, ce bourg, soldat encore debout. Quand, jappant comme un chien poursuivi par un loup, novembre dans la brume errant de roche en roche, répond au hurlement de janvier qui s'approche. Le donjon crie « En guerre, ô tourmente, es-tu là ?» Il craint peu l'ouragan, lui qui vit Attila. Oh, les lugubres nuits, combat dans la bruine, la nuée attaquant, farouche la ruine, un ruissellement vaste, affreux, torrentiel, descend des profondeurs furieuses du ciel. Le bourg brave la nue, on entend les gorgones aboyer aux 8 coins de ses tours octogones. Tous les monstres sculptés sur l'édifice épars grondent, et les lions de pierre des remparts mordent la brume. L'air est l'onde et les tarasques battent de l'aile au souffle horrible des bourrasques. L'âpre averse, en fuyant, vomit sur les griffons. Et sous la pluie, entrant par les trous des plafonds, les guivres, les dragons, les méduses, les drées, grince des dents au fond des chambres s'effondrer. Le château de granit, pareil au preux de fer, lutte toute la nuit, résiste tout l'hiver. En vain le ciel s'essouffle, en vain janvier se rue, en vain tous les passants de cette sombre rue qu'on nomme l'infini, l'ombre et l'immensité, le tourbillon d'un fouet invisible laté, le tonnerre, la trombe où le typhon se dresse, s'acharne sur la fière et haute forteresse. L'orage la secoue en vain comme un fruit mûr. Les vents perdent leur peine à guerroyer ce mur. Le feune bruyant s'y lasse, et sur cette cuirasse, l'aquilon s'époumonne et l'autan se harasse. Et tous ces noirs chevaux de l'air sortent fourbus de leur bataille avec le donjon de Corbu. Ainsi, malgré la ronce et le chardon et l'herbe, le vieux bourg est resté triomphant et superbe. Il est comme un pontife au cœur du bois profond. Sa tour lui met trois rangs de créneaux sur le front. Le soir, sa silhouette immense se découpe. Il a pour trône un roc, haute et sublime croupe. Et par les quatre coins, sud, nord, couchant le vent, quatre monts, Crobius, Bléda, géant du vent, Aptar, où croît le pin, Toxis, que verdit l'orme, soutiennent au-dessus de sa tiare énorme les nuages, ce dais livide de la nuit. Le pâtre a peur et croit que cette tour le suit. Les superstitions ont fait Corbus terrible. On dit que l'archer noir a pris ce bourg pour cible et que sa cave est l'antre où dort le grand dormant. Car les gens des hameaux tremblent facilement. Les légendes toujours mêlent quelques fantômes à l'obscure vapeur qui sort des toits de chaume. L'âtre enfante le rêve, et l'on voit ondoyer l'effroi dans la fumée errante du foyer. Aussi le paysan, en grâce à sa roture, qui le dispense, lui, d'audace et d'aventure, et lui permet de fuir ce bourg de la forêt qu'un preux par point d'honneur belliqueux chercherait. Corbus voit rarement au loin passer un homme. Seulement, tous les 15 ou 20 ans, l'économe et l'huissier du palais, avec des cuisiniers, portant tout un festin dans de larges paniers, viennent, font des apprêts mystérieux et partent. Et le soir, à travers les branches qui s'écartent, on voit de la lumière au fond du bourg noirci. Et nul n'ose s'approcher. Et pourquoi ? Le voici. 4. La coutume de Luzas. C'est l'usage, à la mort d'un marquis de Luzas, que l'héritier du trône, en qui revit la race, avant de revêtir les royaux attributs, aille une nuit souper dans la tour de Corbus. C'est de ce soir souper qu'il sort prince et margrave. La marquise n'est bonne et le marquis n'est brave que s'ils ont respiré les funèbres parfums des siècles dans ce nid de vieux maîtres défunts. La marquise n'est bonne et le marquis n'est brave que s'ils ont respiré les funèbres parfums des siècles dans ce nid des vieux maîtres défunts. Les marquis de Luzas sont une étrange tige. Et leur source est profonde à donner le vertige. Ils ont pour père Anté, l'ancêtre d'Attila. De ce vin cul d'Alcide, une race coula. C'est la race, autrefois païenne puis chrétienne, de Lécus, de Platon, d'Otto, d'Ursus, d'Étienne, et de tous ces seigneurs des rocs et des forêts, bordant l'Europe au nord, flot d'abord, digue après. Corbus est double. Il est bourg au bois, ville en plaine. Du temps où l'on montait sur la tour châtelaine, on voyait au-delà des pins et des rochers sa ville perçant l'ombre au loin de ses clochers. Cette ville a des murs, pourtant ce n'est pas d'elle que relève l'antique et noble citadelle. Fière, elle appartient, et quelquefois, à un château et l'égal d'une ville, en Toscane, Prato, Barletta, dans la Pouille et Crème en Lombardie, valent une cité même forte et hardie. Corbus est de ce rang. Sur ses rues de parois, ce bourg a le reflet de tous les anciens rois. Tous leurs avènements, toutes leurs funérailles, ont, chantant ou pleurant, traversé ses murailles. Tous s'y sont mariés, la plupart y sont nés, et c'est là que flamboyaient ces barons couronnés. Corbus est le berceau de la royauté scythe. Or, le nouveau marquis doit faire une visite à l'histoire qui va continuer. La loi veut qu'il soit seul pendant la nuit qui le fait roi. Au seuil de la forêt, un clerc lui donne à boire un vin mystérieux versé dans un ciboire qui doit, le soir venu, l'endormir jusqu'au jour. Puis l'on le laisse, il part et monte dans la tour. Il trouve dans la salle une table dressée, il soupe et dort, et l'ombre envoie à sa pensée tous les spectres des rois depuis le duc Bella. Nul n'oserait entrer au bourg cette nuit-là. Le lendemain, on vient en foule, on le délivre, et plein des visions du sommeil encore ivre de tous ces grands aïeux qui lui sont apparus, on le mène à l'église, où dort Borivorus. L'évêque lui bénit la bouche et la paupière, et met dans ses deux mains les deux haches de pierre dont Attila frappait, juste comme la mort, d'un bras sur le midi, de l'autre sur le nord. Ce jour-là, sur les tours de la ville, on arbore le menaçant drapeau du marquis Svantivor, qu'il y a dans les bois et fit manger au loup sa femme et le taureau dont il était jaloux. Même quand l'héritier du trône est une femme, le souper de la tour de Corbus la réclame. C'est la loi. Seulement, la pauvre femme a peur. 5. La marquise de Mao. La nièce du dernier marquis, Jean le Frappeur, Mao est aujourd'hui marquise de Luzas. Dame, elle a la couronne, et femme, elle a la grâce. Une reine n'est pas reine sans la beauté. C'est peu que le royaume, il faut la royauté. Dieu, dans son harmonie également emploie le cèdre qui résiste et le roseau qui ploie. Et certes, il est bon qu'une femme, parfois, et dans sa main les mœurs, les esprits et les lois, succède au maître altier, sourit au peuple et même, en lui parlant tout bas, la sombre troupe humaine. Mais la douce Mao, dans ces temps de malheur, tient trop le sceptre, hélas, comme on tient une fleur. Elle est gaie, étourdie, imprudente et peureuse. Toute une Europe obscure autour d'elle se creuse. Et quoiqu'elle ait 20 ans, on a beau la prier, elle n'a pas encore voulu se marier. Il est temps, cependant, qu'un bras viril l'appuie. Comme l'arc-en-ciel rit entre l'ombre et la pluie, comme la biche joue entre le tigre et l'ours, elle a, la pauvre belle aux purs et chastes jours, deux noirs voisins qui font une noire besogne. L'empereur d'Allemagne et le roi de Pologne. 6. Les deux voisins. Toute la différence entre ce sombre roi et ce sombre empereur, sans foi, sans Dieu, sans loi, c'est que l'un est la griffe et que l'autre est la serre. Tous deux vont à la messe et disent leur rosaire. Ils n'en pensent pas moins pour avoir fait tous deux dans l'enfer un traité d'alliance hideux. On va même jusqu'à chuchoter à voix basse dans la foule où la peur d'en haut tombe et s'amasse, l'affreux texte d'un pacte entre eux et le pouvoir qui s'agite sous l'homme au fond d'une monde noire. Quoique l'un soit la haine et l'autre la vengeance, ils vivent côte à côte en bonne intelligence. Tous les peuples qu'on voit saigner à l'horizon sortent de leur tenaille et sont de leur façon. Leurs deux figures sont lugubrement grandies par deux rouges reflets de sacs et d'incendies. D'ailleurs, comme David, suivant l'usage ancien, l'un est poète et l'autre est bon musicien. Et les déclarant Dieu, la renommée allie leur nom dans les sonnets qui viennent d'Italie. L'antique hiérarchie a l'air mise en oubli, car, suivant le vieil ordre en Europe établi, l'empereur d'Allemagne est duc, le roi de France marquis. Les autres rois ont peu de différence. Ils sont barons autour de Rome, leur pilier, et le roi de Pologne est simple chevalier. Mais dans ce siècle, on voit l'exception unique du roi sarmate égal au César germanique. Chacun s'est fait sa part. L'Allemand n'a qu'un soin, il prend tous les pays de terre ferme au loin. Le Polonais, ayant le visage rivage baltique, veut des ports. Il a pris toute la mer celtique. Sur tous les flots du nord, il pousse ses dromons. L'Islande voit passer ses navires démons. L'Allemand brûle Anvers et conquiert les deux Prusses. Le Polonais secourt Spotocus, duc des Russes, comme un plus grand boucher en aide aux plus petits. Le roi prend, l'empereur pille, usurpe, investit. L'empereur fait la guerre à l'ordre teutonique. Le roi, sur le Jutland, pose son pied cynique. Mais qu'il brise le faible ou qu'il trompe le fort, quoi qu'il fasse, ils ont pour loi d'être d'accord. Des geysers du pôle aux cités transalpines, leurs ongles monstrueux crispés sur des rapines, égratignent le pâle et triste continent. Et tout leur réussit. Chacun d'eux, rayonnant, mène à la fin tous ses plans lâches ou téméraires. Et règne, et sous son Satan paternel, ils sont frères. Ils s'aiment. L'un est fourbe et l'autre est déloyal. Ils sont les deux bandits du grand chemin royal. Oh, les noirs conquérants, et quelle œuvre éphémère! L'ambition branlant ses têtes de chimère sous leur crâne brumeux, fétide et sans clarté, nourrit la pourriture et la stérilité. Ce qu'ils font est néant et cendre, une hydre halète dans leur âme nocturne et profonde, un squelette. Le Polonais sournois, l'Allemand hasardeux, remarque qu'à cette heure une femme est près d'eux. Tous deux guettent Mao. Et naguère avec rage, de sa bouche qu'empourpre une lueur d'orage, et d'où sortent des mots pleins d'ombre ou teints de sang, l'empereur a jeté cet éclair menaçant. L'Empire est là d'avoir au dos cette besace qu'on appelle la haute et la basse l'usace, et dont la pesanteur qui nous met sur les dents s'accroît quand par hasard une femme est dedans. Le Polonais se tait, épie et patiente. Ce sont deux grands dangers, mais cette insouciante sourit, gazouille et danse, aime les doux propos, se fait bénir du pauvre et réduit les impôts. Elle est vive, coquette, aimable et bijoutière. Elle est femme toujours. Dans sa couronne altière, elle choisit la perle, elle a peur du fleuron. Car le fleuron tranchant, c'est l'homme et le baron. Elle a des tribunaux d'amour qu'elle préside. Aux copistes d'Homère, elle paye un subside. Elle a tout récemment accueilli dans sa cour deux hommes, un luthier avec un troubadour, dont on ignore tout, le nom, le rang, la race, mais qui, conteur charmant, le soir, sur la terrasse, à l'heure où les vitraux aux brises sont ouverts, lui font de la musique et lui disent des vers. Or, en juin, la Lusace, en août, les Moraves, font la fête du trône et sacrent leur margrave. C'est aujourd'hui le jour du bourg mystérieux. Mao viendra ce soir souper chez ses aïeux. Qu'est-ce que tout cela fait à l'herbe des plaines, aux oiseaux, à la fleur, aux nuages, aux fontaines? Qu'est-ce que tout cela fait aux arbres des bois? Que le peuple déjoue et que l'homme est deux rois. L'eau coule, le vent passe et murmure, pff, qu'importe. 7. La salle à manger. La salle est gigantesque, elle n'a qu'une porte. Le mur fuit dans la brume et semble illimité. En face de la porte, à l'autre extrémité, brille, étrange et splendide, une table adossée au fond de ce lit vide et froid rez-de-chaussée. La salle a pour plafond les charpentes du toit. Cette table n'attend qu'un convive, on n'y voit qu'un fauteuil sous un dais qui pente aux poutres noires. Les anciens temps ont peint sur le mur leurs histoires. Le fier combat du roi des Vendes, Tassilo, contre Nemrod sur terre et Neptune sur l'eau. Le fleuve Rhin, trahi par la rivière Meuse, et, groupe blêmissant sur la paroi brumeuse, Odin, le loup Fenris et le serpent Asgard. Et toute la lumière éclairant ce hangar, qui semble d'un dragon avoir été l'étable, vient d'un flambeau sinistre allumé sur la table. C'est le grand chandelier aux 7 branches de fer que l'archange Attila rapporta de l'enfer après qu'il eut vaincu le mammon et 7 âmes furent du loin formaux les 7 premières flammes. Toute la salle semble un grand linéament d'abîme modelé dans l'ombre vaguement. Au fond, la table éclate avec la brusquerie de la clarté heurtant des blocs d'orfèvrerie. De beaux faisans tués par les traîtres faucons, des viandes froides, forces et guerres et blacons, chargent la table où s'offre une opulente agape. Les plats bordés de fleurs sont en vermeil. La nappe vient de Frise, pays célèbre par ses draps. Et pour les fruits, brouillons, fraises, pommes, cédras, les pâtres de la bourgue ont sculpté les sébiles. Ces orfèvres du bois sont des rustres habiles qui font sur une écuelle ondoyer des jardins et des monts où l'on voit fuir de chasse aux daims. Sur une vasque d'or aux anses florentines, des actéons cornus et chaussés de bottines luttent, l'épée au poing, contre les lévriers. Des branches de glaïeul et de genévrier, des roses, des bouquets d'anis, une jonchée de sauge tout en fleurs nouvellement fauchées, couvrent d'un frais parfum de printemps répandu un tapis disparant sur la nappe étendue. Dehors, c'est la ruine et c'est la solitude. On entend dans sa rogue et vaste inquiétude passer sur le hallier par les terres rajeunies le vent, onde de l'ombre et flot de l'infini. On a remis partout des vitres aux verrières qu'ébranle la rafale arrivant des clairières. L'étrange, dans ce lieu ténébreux et rêvant, ce serait que celui qu'on attend fût vivant. Aux lueurs du 7 bras qui fait flambouiller presque les vagues yeux épars sur la lugubre fresque, on voit le long des murs, par places, un escabeau, quelques longs coffres obscurs à meubler le tombeau, et des buffets chargés de cuivre de faïence, et la porte, effrayante et sombre confiance, est formidablement ouverte sur la nuit. Rien ne parle en ce lieu d'où tout homme s'enfuit. La terreur dans les coins accroupis attend l'hôte. Cette salle à manger de titan est si haute qu'en égarant de poutre en poutre son regard, aux étages confus de ce plafond hagard, on est presque étonné de n'y pas voir d'étoiles. L'araignée est géante en ses hideuses toiles flottant là-haut parmi les madriers profonds que mordent aux deux bouts les gueules des griffons. La lumière a l'air noire et la salle a l'air morte. La nuit retient son souffle. On dirait que la porte a peur de remuer tout haut ses deux battants. 8. Ce qu'on y voit encore. Mais ce que cette salle entre obscure des vieux temps a de plus sépulcral et de plus redoutable, ce n'est pas le flambeau, ni le dais, ni la table. C'est le long de deux rangs d'arches et de piliers, deux files de chevaux avec leurs chevaliers. Chacun à son pilier s'adosse et tient sa lance. L'arme droite, ils se font vis-à-vis en silence. Les chanfreins sont lacés, les harnais sont bouclés, les chatons des cuissards sont barrés de leurs clés, les trousseaux de poignards sur l'arçon se répandent jusqu'au pied des chevaux, les carapaçons pendent, les cuirs sont agrafés, les ardillons des reins attachent l'éperon, sergent le gorgerin, la grande épée à main brille au croc de la selle, la hache est sur le dos, la dague est sous l'aisselle. Les genouillères ont leur boutoir meurtrier. Les mains pressent la bride et les pieds l'étrier. Ils sont prêts. Chaque homme est masqué de son crible. Tous se taisent, pas un ne bouge, c'est terrible. Les chevaux monstrueux ont la corde aux frontailles. Si Satan est berger, c'est là son noir bétail. Pour en voir de pareil dans l'ombre, il faut qu'on dorme. Ils sont comme engloutis sous la housse difforme. Les cavaliers sont froids, calmes, graves, armés, effroyables. Les poings lugubrement fermés. Si l'enfer tout à coup ouvrait ses mains fantômes, on verrait quelques lettres affreuses dans leurs paumes. De la brume du lieu, leur stature s'accroît. Autour d'eux, l'ombre a peur et les piliers ont froid. Ô nuit, qu'est-ce que ces guerriers livides? Chevaux et chevaliers sont des armures vides, mais debout. Ils ont tous encore le geste fier, leur fauve, et quoi qu'étant de l'ombre, ils sont du fer. Sont-ce des larmes? Non. Et sont-ce des statues? Non. C'est de la chimère et de l'horreur vêtue d'airain et des bas-fonds de ce monde puni, faisant une menace obscure à l'infini. Devant cet impassible et morne chevauchée, l'âme tremble et se sent des spectres approchés, comme si l'on voyait la halte des marcheurs, mystérieux que l'aube efface en ses blancheurs. Si quelqu'un à cette heure osait franchir la porte, à voir se regarder ces masques de la sorte, il croirait que la mort, à de certains moments, rhabillant l'homme, ouvrant les sépulcres dormants, ordonne hors du temps, de l'espace et du nombre, des confrontations de fantômes dans l'ombre. Les linceuls ne sont pas plus noirs que ces armées. Leurs tombeaux, quoique sourds et voilés pour jamais, ne sont pas plus glacés que ces brassards. Les bières n'ont pas l'air hideux, mieux joints que ces jambières. Le casque semble un crâne, et de squames couverts, le doigt des gantelets luisent comme des vers. Ces robes de combat ont des plis de suaire. Ces pieds pétrifiés cieraient au sossuaire. Ces piques ont des bois lourds et vertigineux, où des têtes de mort s'ébauchent dans les nœuds. Ils sont tous arrogants sur la selle, et leurs bustes achève les poitrails des destriers robustes. Les mailles sur leurs flancs croisent leurs durs tricots. Le mortier des marquis près des troyens tuticaux rayonne, et sur l'écu, le casque et la rondache, la perle triple alterne avec les feuilles d'ache. La chemise de guerre et le manteau de roi sont si larges qu'ils vont du maître au palefroi. Les plus anciens harnais remontent jusqu'à Rome. L'armure du cheval sous l'armure de l'homme vit d'une vie horrible, et guerriers et coursiers ne font qu'une seule hydre aux écailles d'acier. L'histoire est là. Ce sont toutes les panoplies par qui furent jadis tant d'œuvres accomplies. Chacune, avec son timbre en forme de delta, semble la vision du chef qui la porta. Là sont les ducs sanglants et les marquis sauvages, qui portaient pour pennon au milieu des ravages des seins dorés et peints sur des peaux de poisson. Voici Jette qui criait aux Slaves, avançons! Mondiaque, Tocard, Platon, Ladislas, Cune, Velfeu dont l'écu portait, ma peur se nomme aucune. Zultan, Nasamistus, Othon le chassieux, depuis Spignus jusqu'à Spartibor aux trois yeux, toute la dynastie effrayante d'Antée semble là, sur le bord des siècles arrêtés. Que font-ils là, debout et droit? Qu'attendent-ils? L'aveuglement remplit l'armée aux durs sourcils. L'arbre est là, sans la sève et le héros sans l'âme. Où l'on voit des yeux d'ombre, on vit des yeux de flamme. La visière au trou rond sert de masque au néant. Le vide s'est fait spectre et rien s'est fait géant. Et chacun de ces hauts cavaliers est l'écorce de l'orgueil, du défi, du meurtre et de la force. Le sépulcre glacé les tient, la rouille mord ces grands casques épris d'aventures et de morts que baisait leur maîtresse Auguste la bannière. Pas un brassard ne peut remuer sa charnière. Les voilà tous muets, eux qui rugissaient tous, et grondant et grinçant rendaient les clairons fous. Le homme affreux n'a plus de cris dans ses gencives. Ses armures, jadis fauves et convulsives, ses haubères, autrefois pleins d'un souffle irrité, sont venus s'échouer dans l'immobilité. Regarder devant eux l'ombre qui se prolonge et prendre dans la nuit la figure du songe. Ces deux files qui vont depuis le morne seuil jusqu'au fond où l'on voit la table et le fauteuil laissent entrer leur front à une ruelle étroite. Les marquis sont à gauche et les ducs sont à droite. Jusqu'au jour où le toit que Spignus crénela, chargé d'en, croulera sur leur tête, ils sont là, inégaux, face à face et pareils côte à côte. En dehors des deux rangs, en avant, tête haute, comme pour commander le funèbre escadron qu'éveillera le bruit du suprême clairon, les vieux sculpteurs ont mis un cavalier de pierre, Charlemagne, ce roi qui de toute la terre fit une table ronde à 12 chevaliers. Les cimiers surprenants, tragiques, singuliers, cauchemars entrevus dans le sommeil sans bornes, sirènes aux seins nus, mélusines, licornes, farouches bois de cerf, aspic, alérion, sur la rigidité des pâles morillons, semblent une forêt de monstres qui végètent. L'un penche en avant, l'autre en arrière se jette. Tous ces êtres, dragons, cerbères orageux, que le bronze et le verre ont créés dans leur jeu, lions volants, serpents ailés, guivres palmés, faits pour l'effarement des livides armées, espèces de démons composés de terreur, qui sur le haut maltier des barreaux en fureur hurlaient, accompagnant leurs bannières géantes, sur les cimes glacées, songes, gueules béantes, comme s'ils s'ennuyaient, trouvant les siècles longs, et regrettant les morts, saignant sous les talons, les trompettes, la poudre immense, la bataille, le carnage, on dirait que l'épouvante bâille. Le métal fait reluire en reflets durs et froids sa grande larme au mufle obscur des palefrois. De ses spectres pensifs, l'odeur des temps s'exhale. Leur ombre est formidable au plafond de la salle. Aux lueurs du flambeau frissonnant, au-dessus des blêmes cavaliers vaguement aperçus, elle remue et croît dans les ténèbres faites. Et la double rangée d'horribles de ses têtes fait dans l'énormité des vieux combles fuyants de grands nuages noirs aux profils effrayants. Mais tout est fixe et pas un coursier ne se cabre dans cette légion de la guerre macabre. Oh, ces hommes masqués sur ces chevaux voilés, chose affreuse! À la brume éternelle mêlée, ayant chez les vivants fini leur tâche austère, muets, ils sont tournés du côté du mystère. Ces sphinx ont l'air, au seuil du gouffre où rien ne luit, de regarder l'énigme en face dans la nuit, comme si, prêts à faire entre les bleus pilastres sous leurs sabots d'acier étinceler les astres, voulant pour cirque l'ombre, ils provoquaient d'en bas, pour on ne sait quels fiers et funèbres combats, dans le champ sombre où n'ose aborder la pensée, la sinistre visière au fond des cieux baissée.